Alléluia, bonsoir à tous. Veuillez vous asseoir et bienvenue à ce superbe culte du mercredi 26 novembre 2025. Bienvenue à tous et nous allons étudier quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui s'est produit au Nigeria où Pasteur Chris a été simultanément dans 10 villes grâce à Internet. Je vais vous montrer juste si j'ai quelques vidéos. C'était littéralement des centaines de milliers de personnes. C'est beau, hein? J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'une chose intéressante, très intéressante, qui consiste à une compréhension profonde des outils que Dieu nous donne. La Bible nous montre que Dieu nous a équipés d'outils, et j'aimerais qu'on les observe quelque chose ensemble. Prenez 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Or moi-même, Paul, je vous exhorte. Donc là, Paul va commencer une exhortation. Quand on exhorte quelqu'un, c'est parce que l'action va dépendre de la personne qu'on exhorte. Vous comprenez? La balle va être dans le camp de la personne qu'on exhorte. Logique, hein? Par exemple, si un enfant tout petit est encore inconscient de ses responsabilités individuelles, vous ne pouvez pas l'exhorter à faire quelque chose de différent. Vous devez l'obliger. Vous voyez la différence? De la même manière qu'une exhortation va construire autrui pour faire quelque chose de juste et qu'on ne peut pas le faire à la place de l'autre. On peut prier pour lui pour orienter son cœur, mais on ne peut pas le faire pour lui. Or moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté, du Christ, moi qui présent, quant à l'apparence, suis chétif au milieu de vous, mais qui absent use de hardiesse envers vous. Donc il dit, ma supplication, mon encouragement pour vous va venir de cette hardiesse que j'ai cachée. Comprenez le contexte. Il dit, physiquement parlant, j'ai l'air de rien peut-être. Vraisemblablement, selon ce qu'il dit, il n'était pas imposant physiquement. Et donc cette exhortation est dans ce fait-là où il dit « L'exhortation que je vous donne va venir, non pas de ma force physique ou de ma compréhension des choses humaines, physiques, mais des choses de l'intérieur. » D'accord ? Regardez, c'est comme une chose intéressante. Moi, j'aime bien optimiser mon temps au maximum. C'est-à-dire que si je peux, je vais même déléguer à d'autres personnes ce que j'ai à faire, en les payant, vous voyez ? C'est une optimisation de mon temps qui est logique. C'est-à-dire que je paye telle personne pour faire tel travail, et pendant ce temps-là, moi, je suis plus productif pour les choses qui ramènent plus d'argent. Vous comprenez ? Et il y a une chose que je ne peux absolument pas déléguer, et j'en rigole chaque semaine, c'est d'aller chez le coiffeur. Je ne peux pas déléguer ça, vous comprenez ? Il y a des choses qu'on ne peut déléguer. Je peux prier pour vous autant que je veux. Il y a des choses que vous ne pourriez pas déléguer sur votre pasteur, pardon. Vous voyez l'idée ? Il y a des choses que vous ne pouvez pas déléguer à autrui, notamment dans le monde spirituel. Et il dit, mais je vous supplie, lorsque je serai présent, je n'use pas de hardiesse avec cette assurance avec laquelle je pense que je prendrai sur moi d'agir envers quelques-uns qui pensent que nous marchons selon la chair. Donc là, il parle qu'il y a des gens qui pensent qu'on marche selon la chair. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Église encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste de faire comme ça. Fais attention en lançant ton business. On est censé faire ci, on est censé faire ça. Oui, la parole fonctionne, mais attention, tu peux quand même tomber malade. Ça, c'est marcher selon la chair. Et donc, déjà à l'époque, l'apôtre Paul vivait dans cette contradiction. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. J'aimerais que vous notiez qu'il n'a pas dit elles ne sont pas humaines. Il a dit elles ne sont pas charnelles. C'est intéressant cette distinction. Il n'a pas dit c'est pas une arme qui est humaine et qui est du ressort de l'humain. Il a dit c'est une arme qui n'est pas du ressort des choses physiques. C'est ça qu'il a dit. Et après, il précise, car les armes de notre guerre, regardez encore une fois, verset 4, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, elles ne sont pas de la chair, elles ne sont pas du corps, elles ne sont pas du système de ce monde. Mais notez qu'elle n'a pas dit qu'elles ne sont pas humaines. Rappelez-vous qu'une partie de l'être humain est spirituelle. D'accord? Ça, c'est très important. Détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc vous voyez que cette arme avec laquelle on combat, qui détruisent des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, n'est pas charnelle. Cependant, elle a une dimension humaine. En amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, est-on prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance ait été rendue complète ? C'est intéressant. L'obéissance, c'est des étapes. Vous comprenez ? C'est beau ça, hein ? On commence par une étape d'obéissance. Et on avance dans une autre étape d'obéissance. Et une autre étape d'obéissance jusqu'à arriver à la perfection de la complétude. C'est l'année de la complétude. Amen. Considérez-vous les choses selon l'apparence. Donc là, il pose la question, considérez-vous les choses selon l'apparence ? Si quelqu'un a la confiance en lui-même d'être à Christ, qu'il pense encore ceci en lui-même, que comme lui est à Christ, ainsi nous aussi nous sommes à Christ. Car si même je me glorifiais un peu plus de notre autorité que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pas pour votre destruction, je ne serais pas confus. Donc il dit, je pourrais me glorifier là-dedans. J'ai le droit de me glorifier dans cette autorité. Afin que je ne paraisse pas comme si je vous effrayais par mes lettres. Car ces lettres, dit-on, sont graves et fortes, mais sa présence personnelle est faible et sa parole est méprisable. Écoutez, là, il adresse quelque chose de spirituel. Il est en train de dire, ces lettres, elles sont puissantes. Donc, quand Paul envoie des lettres d'édification et de construction, il dit, elles sont fortes et glorieuses et impactantes. Mais quand on le voit en vrai, il semble être tout chétif. Et avoir une parole petite, comme ça, douce. Vous ne pouvez pas penser à Pasteur Chris, hein, qui est extrêmement doux en vrai, pas très grand en taille. Et pourtant, quand il parle, ses livres, bam, la rhapsodie va dans tous les endroits du monde, comme ça. Il est en Inde actuellement, hein, Pasteur Chris. Je crois que je n'ai jamais vu un lieu de rassemblement aussi grand. Et c'est que des pasteurs. C'est énorme. Vous voyez, Jésus-Christ est Seigneur. Donc il dit, nous ne combattons pas selon les armes de la chair. Mais il ne dit pas que c'est des armes qui ne sont pas humaines. Donc j'aimerais qu'on observe quelque chose par rapport à ces armes. Prenons Romains chapitre 1, verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 et 2, excusez-moi. C'est un verset que vous connaissez, mais j'aimerais qu'on l'observe à nouveau. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu une fois. C'est une écoute continuelle de la parole qui vient vers nous. On est bombardé de la parole de Dieu. Amen. Ils disent, je vous exhorte de nouveau. C'est à nous de le faire. Dites, c'est à moi de le faire. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 2. Donc là, il dit, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Notez qu'il dit quelque chose, la compassion de Dieu. Donc là, il nous montre de nouveau que ce n'est pas quelque chose de charnel par lequel. Quand il dit par les compassions de Dieu, ce n'est pas une formule de politesse. Il dit littéralement, usez des compassions de Dieu pour faire ce que je vais vous demander de faire. C'est-à-dire que l'outil qu'il nous demande d'utiliser, c'est la compassion de Dieu, les compassions, les grâces de Dieu disponibles. Il dit, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le corps, c'est la chair. Intéressant ça, hein ? Donc il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la chair, n'est-ce pas ? Et après, il dit qu'on doit présenter notre corps en sacrifice vivant. Pourquoi ? Parce que ce corps, bien qu'il ne soit pas l'arme, il va être le canal de manifestation de ses victoires. Saint, agréable à Dieu, encore en arrière. Ce qui est votre culte, service, ça veut dire culte. Ce qui est votre sacrifice intelligent. Verset suivant. Et après, il précise, ne vous conformez pas à ce siècle. Et j'aimerais qu'on aille plus loin sur conformer à ce siècle. Ça veut dire ne tombez pas malade. C'est un truc de ce siècle d'être malade. Ça veut dire ne tombez pas dans la pauvreté. C'est un truc de ce siècle, la pauvreté. Vous voyez ? Vous suivez ? Et il dit ça, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés. Dites, il y a une transformation disponible. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Verset suivant. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées. Ah ah ! De nouveau, il parle de la pensée. Emmenez les pensées captives. Des saines pensées. C'est là qu'il y a la victoire, vous comprenez ? Votre victoire est dans le fait qu'il y ait des saines pensées. Dites, j'ai des saines pensées. Au-dessus de celles qu'ils vont avoir, mais de manière à avoir des saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'aimerais expliquer cette mesure de foi. Ce n'est pas tu as une mesure telle, toi tu as une mesure telle, toi tu as une mesure telle et toi tu as une autre mesure. La mesure de foi, c'est la mesure de foi. Donc il y a une foi, point final, qui est donnée à chaque être humain quand il croit en Jésus-Christ et cette foi est suffisante. Et il est en train de dire vous devez avoir une autre estime de vous selon la foi que Dieu vous a donnée. Et ce n'est pas une foi qui est proportionnée différemment. C'est pour ça que quand les disciples ont dit « Seigneur, augmente notre foi », Jésus n'a pas dit « Oui, oui, je vous l'augmente ». On peut travailler la foi que Dieu nous donne, on peut la faire fructifier, la faire porter du fruit. C'est comme chacun de nous a reçu des pectoraux. La question c'est, on peut les muscler d'une certaine manière. Vous voyez, chacun, vous savez que tout le monde peut apprendre à chanter. Cette idée qu'il y a des gens qui chantent faux et juste, c'est faux. Toutes les cordes vocales sont capables de chanter. On doit juste les travailler. C'est un fait ça, hein. Tout le monde est capable de jouer du piano. Il y a juste de l'effort à mettre, c'est tout. Toute personne qui a des doigts peut jouer du piano. Il faut juste apprendre. Il y a des gens qui disent « mais c'était inné chez moi ». Ce n'est pas vraiment vrai. Hein. Si vous regardez, c'est juste qu'il semblerait que les gens qui ont un doigté extrêmement simple au piano dès qu'ils commencent, c'est qu'ils ont joué avec certains jouets qui nécessitaient des doigtés plus fins. Donc en fait, depuis l'enfance, ils entraînent leurs doigts à avoir cette espèce de défilé comme ça, tandis que d'autres sont un peu plus rugueux. Mais tout le monde peut apprendre à parler l'anglais. Tout le monde peut apprendre à parler français. C'est pas vous êtes capable, voyez. C'est pas quelque chose d'inné, d'accord. Verset suivant. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Donc il dit on est individuel mais on est connecté. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous comme si moi j'existais pas. Comme si vous étiez le seul chrétien du monde, mais en même temps, vous êtes connecté au reste. Tout se passe dans votre tête, tout. Vos émotions passent par votre tête. Vos mouvements passent par votre tête. Même faire un pas inconscient comme ça, c'est faux, il n'est pas complètement inconscient. Parce que si vous stoppez net, vous décidez d'avoir stoppé net, vous voyez ? Si maintenant je vous dis par exemple, regardez vers moi là, plusieurs d'entre vous, vous avez levé la tête comme ça. Comment ça se fait ? Parce que j'ai transmis un message via ma parole qui était dans ma tête, qui est arrivé dans votre tête, enfin dans vos oreilles, qui a été capté, qui est rentré dans votre tête et qui a fait que votre corps entier s'est me en direction de moi. Ça paraît simple comme ça, mais imaginez ça dans le monde spirituel. Tout a des oreilles dans le monde spirituel. Vos paroles sont puissantes. Dites mes paroles sont puissantes. C'est la vérité. Et donc, j'aimerais que vous compreniez que votre intelligence est ce point central que Dieu vous a donné. C'est pourquoi il a dit qu'on doit renouveler notre intelligence. Amen. Et Dieu nous a dit que les armes avec lesquelles nous combattons, notez qu'il n'a pas dit l'arme, il a dit les armes, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas celles de la chair. Il n'a pas dit qu'elles ne sont pas humaines. Votre intelligence est d'origine humaine, mais elle a été supplantée. Amen. Supplantée par l'intelligence divine. C'est pour ça que vous devez filtrer les choses et renouveler votre intelligence. Et l'autre outil que Dieu nous a donné, c'est la prière. Un autre outil qu'il nous a donné, c'est l'Église. Un autre outil qu'il nous a donné, c'est la parole. Et on se construit dans ces choses. C'est pour ça que je n'arrive pas à penser échec. Vous savez, j'étudie quelque chose là, personnellement. Je pense que l'argent n'existe pas. Et je suis sérieux sur ça. Je ne dis pas ça d'une manière légère. Je pense vraiment que l'argent n'existe pas. Que c'est un concept qui existe uniquement dans la tête des gens, ou pas. Vous voyez ? Je ne pense pas que l'argent existe. Plus le temps avance, plus je me dis que l'argent, tel qu'on le connaît dans le système économique mondiale actuelle n'est qu'une illusion. Laissez-moi vous donner un exemple. Je n'ai pas le chiffre exact, donc ne mettez pas votre main au feu sur ça. Quand il y a une cargaison de pétrole qui est faite, moi je produis le pétrole, je vends à cette personne, qui la vend 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 à cette personne, et chacun prend un peu sa part. Disons que la cargaison vaut, pour un calcul simple, 100 millions de dollars. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 100 millions de dollars de transactions. Donc il y a eu pour 600 millions de transactions, alors que la cargaison physique n'est que de 100 millions. Vous ne voyez pas un petit peu la déconnexion ? Donc ça veut dire que sur ces 600 millions de transactions pour lesquelles il y a eu des frais, des administratifs, tous ces trucs-là, factuellement, il n'y a que 100 millions de marchandises. Alors je ne compte pas les parts que chacun se prend au passage. Hein. Vous vous rendez compte ? Ce qui veut dire que les banques ont transactionné pour 600 millions, avec, imaginons, 1% de frais chaque fois. J'invente, hein ? Voyez ? Donc ça fait 6 millions de francs qui, eux, sont déduits d'une marchandise de base de 100 millions. Donc ça monte à 6%. Ce qui veut dire, vous comprenez, c'est juste un jeu. L'argent existe uniquement dans la pensée du pauvre, où on mesure 100 balles ici, 40 balles là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention avec votre argent, attention. Hein. Soyez bien sûr prospères, Dieu nous donne des pourcentages, Dieu nous donne machin. Mais je me rends compte que c'est juste des chiffres. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire ? L'argent n'est qu'une illusion. C'est pour ça que Pasteur Keith nous a dit « L'argent existe que dans la pensée du pauvre. » Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que l'argent est limitatif. Si demain je vous dis « Faites ce que vous voulez. » Faites pour le Seigneur exactement ce que vous voulez. Si demain je dis « Carte de crédit gold illimitée. » Faites de carte de débit plutôt. Parce qu'on ne prend pas de dette, on est enfant de Dieu. Amen. Carte de débit. Vous avez accès à un compte illimité. Regardez comme d'une seconde là, alors même que je vous ai juste communiqué ces quelques mots, votre intelligence a tout de suite commencé à fuser et se dit qu'est-ce que je ferais pour le Seigneur si demain j'avais de l'argent limité. Vous voyez un peu l'idée ? Vous voyez comme l'argent peut être un limitateur dans ce que Dieu veut faire pour nous ? Vraiment, hein ? Parce que là, si je dis n'importe qui, je prends n'importe qui dans cette pièce et je dis qu'est-ce que tu fais demain si tu as 100 millions à disposition pour le Seigneur ? Je vous garantis que votre intelligence commence à bzzz et réfléchir ce qu'elle peut faire. Je ferai des affiches. Un, je créerai un hôpital. Un, je créerai un orphelinat. Un, je ferai ci. Vous voyez un peu l'idée ? Ne vous laissez pas limiter par vos pensées. En fait, le seuil maximum, regardez, c'est tellement intéressant. La Bible dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et après précise où pensons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Notez bien, regardez. Vous avez un niveau de pensée qui vous permet d'être ici. Vous êtes là à votre niveau de pensée. Ça veut dire que Dieu peut être là. N'est-ce pas ? Il est au-delà. Maintenant, vous élevez votre niveau de pensée. Ça veut dire que Dieu va encore plus loin. Vous élevez votre niveau de pensée, il va encore plus loin. Vous voyez un peu l'idée ? Il n'y a pas de limite dans le Seigneur. Le ciel est la limite. Vous êtes prospère en Christ pour gagner des âmes. Vous pensez, regardez, il y a quelque chose qui me fascine, moi. S'il y a bien un endroit du monde qui devrait détester le christianisme, c'est l'Afrique. Vraiment. Surtout l'Afrique subsaharienne. La côte, là, depuis le Ghana jusqu'à peu près en Angola. Ils devraient haïr le christianisme historiquement. Et pourtant, il y a des gens qui se sont levés dans ces pays, qui ont prié et qui ont amené leur pays au Seigneur, et les gens viennent à Christ en masse dans ces pays. Vous voyez ? Dites, je suis prospère pour amener les âmes. Vous voyez ? Vous devez avancer dans cette réalité-là. Et vous devez bombarder votre pensée, parce que tout essaye d'avoir votre attention. Tout. Tout essaye d'avoir votre attention. Les médias essaient d'avoir votre attention. Je l'ai déjà dit, un chrétien ne peut pas être un disciple du Seigneur affermi s'il va toujours voir les médias. Il ne peut pas. La Bible dit, ils sont du monde et le monde les écoute. Pourquoi est-ce que le monde écoute ces choses ? Vous voyez, vous bombardez, nous devons bombarder notre pensée de la parole de Dieu. Nous devons bombarder notre pensée des choses divines. Nous devons bombarder notre pensée des réalités spirituelles qui vivent en nous. Nous devons bombarder nos pensées de la réalité de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout essaye de capter votre attention, tout. Telle pub essaie de capter votre attention. Telle personne essaie de capter votre attention. Le diable essaie de capter votre attention. Dieu essaie de capter votre attention. La question c'est, quelle attention allez-vous donner à la juste source ? Parce que votre pensée est constamment, constamment nourrie. Votre pensée n'est jamais neutre. Vous voyez ? Il y a constamment un flux d'informations qui vient vers vous, même des informations inconscientes. Quelle est la couleur des murs ici? Le mur là, il est de quelle couleur en face? C'est une information que vous avez dans votre tête depuis, au point que si vous étiez chez vous et que je vous demandais quelle est la couleur du mur à l'église en face, tout de suite vous auriez mis dit bleu. Vous voyez, cette information est dans votre tête, on est d'accord? Vous suivez jusqu'ici? Donc vous devez absolument laisser un maximum d'informations de Dieu venir vers vous. Amen. C'est que ça qui va compter au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette information que c'était assez marrant. Hier, j'étais avec des amis et ils me parlaient qu'ils travaillaient dans un bar. Le gars qu'on a vu avant au marché. Ils me disaient, je travaille dans un bar. Et je fais, ah ok, on a des soirées à thème dans notre bar, des soirées karaoké. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Une soirée karaoké. Et il m'a expliqué que les gens viennent chanter, en fait, en gros. Et en fait, il trouvait ça marrant que je ne sache pas ce que c'est. Après, il ne me connaît pas trop bien. Donc, c'est vrai que si vous me connaissez, vous savez qu'il y a des choses que je ne sais vraiment pas sur ce monde. Mais j'ai aucune idée ce que c'est la Champions League. Je sais que c'est un truc de foot. Hein. Mais j'ai aucune idée ce que c'est au niveau pratique. Je ne sais pas si c'est des clubs, j'ai aucune idée si c'est des pays, je ne sais pas si c'est des régions qui jouent, j'ai aucune idée. Vous me parlez d'un joueur de foot, il y a des gens, bam, 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 ils le savent tout de suite. Vous voyez un peu l'idée? Moi, j'ai aucune idée, au point que j'ai pensé qu'une personne, quand elle me parlait de Messie en Israël, je pensais qu'elle parlait du Messie Jésus-Christ. C'est juste vous dire à quel point je peux manquer certaines informations. Pourtant, je savais qu'il existait ce gars, vous voyez? Mais cette information-là, je ne lui ai pas donné beaucoup d'attention. Vous voyez un peu l'idée? C'est comme des fois, j'aimais bien taquiner Natacha et Stella quand je faisais des choses nouvelles à l'église qu'elle ne voyait pas. Vous voyez? C'était une taquinerie qui me faisait un petit peu rire. Je disais, oh, regarde ce qu'on a changé, puis elle ne voyait pas, alors que pour moi, c'était absolument évident, vu que c'est moi qui l'avais fait. Vous voyez l'idée? Et pour elle, non. Et donc, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en compétition pour avoir votre attention. Et différent, à qui vous donnez cette attention. Votre pensée va être influencée. Notez quelque chose. J'ai remarqué quelque chose personnellement. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais j'ai remarqué que les seuls problèmes de santé, qui bien sûr n'étaient pas graves, que j'ai eus, c'était que des problèmes de santé que j'avais vus chez d'autres personnes, que je savais qui existaient. Je n'ai jamais eu un problème de santé que j'ai jamais vu qui existait chez quelqu'un. En y pensant, je peux vous dire, hein, j'ai eu deux problèmes de santé, et les deux, pour le coup, je les ai vus chez des membres de famille. Le premier, c'est ce qu'on appelle une épine calcanéenne au talon. J'ai eu quelqu'un dans ma famille qui l'a eu pendant plusieurs mois, et tous les jours, cette personne avait mal. Et ça m'est arrivé. L'autre truc, lombalgie, problème au lombaire. Et quelqu'un de ma famille en avait tout le temps. Et en fait, c'est bête, mais ça a formé ma pensée. Encore et encore que cette chose existe. C'est pas un hasard que c'est les deux seuls trucs que j'ai eu de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense vraiment pas que ce soit un hasard. Il y a des gens qu'on éduque à être pauvres. Depuis l'enfance, on leur dit fais attention à ça, fais attention. Vous voyez, il y a des attitudes. On est enfant de Dieu. Vous voyez? On est enfant de Dieu. Par exemple, il y a des parents qui vont mettre la maison à 16 degrés, même moins des fois, et qui vont dire aux enfants, non, on économise le chauffage, tu te couvres maintenant. Mais sans faire exprès, ils enseignent leur enfant à penser comme un pauvre. Parce qu'une différence pour une maison, si jamais, c'est même pas 100 balles par an. Hein, aujourd'hui, en termes d'économie. Donc c'est rien, quoi. C'est 10 balles par mois, même pas. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, ça dépend de la taille de la maison, vous allez me dire. Mais d'une manière générale, ils vont mettre même des fois plus bas, à, par exemple 15 degrés. C'est pas sain, vous voyez, cette mentalité. Et donc, vous devez comprendre que beaucoup de choses essayent d'attraper votre attention. Énormément. Et votre attention doit être sur Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous fixions nos yeux sur Christ, l'auteur et le consommateur, ou le finisseur, littéralement, de notre foi. Vous devez avoir les yeux fixés sur Christ, c'est votre but ultime. Vous devez être focusé sur lui et tout ce que vous faites est tiré de la prospérité qu'il a pour vous. Amen. Parce qu'il est votre Dieu. Jésus-Christ est Dieu incarné. Et sans lui, nous n'aurons pas la victoire et sans lui, nous allons balbutier, la Bible dit, comme dans des vagues et des flots de vents de doctrine. Voyez? C'est pour ça que les gens peuvent... On a vu dans le Rhapsodie aujourd'hui, être offusqué pour un moindre truc. J'aimerais juste qu'on reprenne, si vous êtes d'accord, une petite lecture rapide du Rhapsodie. Il dit, attendez voir, ah mais pas étonnant, j'étais dans mercredi 19, mercredi 26. Écoutez ça, écoutez ça. Aujourd'hui, certaines personnes agissent toujours comme ces multitudes qui ont été offensées contre le maître. Notez bien, l'offense elle-même est une question de focus. Pourquoi est-ce que vous êtes offensé par une personne qui ne suit pas le Seigneur alors que Dieu, le maître de l'univers, vous aime et vous voit comme Christ ? La Bible dit que quand il nous regarde, il voit Christ, vous savez ça, hein ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez être offensé par une personne qui, excusez-moi, comparé à Dieu, ne vaut rien ? Et je vais même aller plus loin. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, cette personne, comparée à vous, ne vaut rien. Depuis quand est-ce qu'un roi a à faire ce qu'une personne méchante et bête a à dire sur lui ? Surtout si c'est un bon roi. Amen. Regardez ça. Ils sont instables, notez bien, facilement ébranlés par la correction, voire un ouais dire. Il n'y a pas de stabilité dans leur vie. Le pasteur prêche sur un sujet et il conclut qu'il parle d'eux. C'est une décision, ça. Les gens décident d'être offensés. Les gens décident de voir le mal ou décident de voir le bien et d'avancer. C'est pour ça que Dieu dit aux enfants d'Israël, « Je mets devant vous la mort et la vie. » Et après, il précise, « Choisis la vie afin que tu vives. » Ça paraît simple, on peut en rigoler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait choisir la mort ? Et pourtant, ils ont choisi la mort après. Donc ça vous montre juste à quel point ils n'ont pas écouté. Hein. Ils ont choisi de mourir dans le désert plutôt que de suivre l'œuvre du Seigneur. Donc ça paraît bateau que Dieu dise « Choisis la vie ». Mais vous devez choisir la vie. Vous devez choisir la réussite. Vous devez marcher dans ce chemin où toute excuse, toute offense, toute perte, toute distraction est absolument mise à la croix. Vous voyez ? C'est ça l'appel de Dieu sur le chrétien. Et vous dites « Mais Joachim, c'est difficile. » Tranquille, donnez-vous le temps de grandir. Donnez-vous le temps d'avancer. Un enfant doit apprendre à marcher. Amen. D'abord, un enfant, il est par terre, il est incapable de bouger. Mais il est capable d'appeler à l'aide quand il a besoin. Vous voyez ? Et donc, quelqu'un de plus mature vient à l'aide. Ensuite, il est capable de se tenir tout seul par terre. Je sais, j'ai observé ça avec mes neveux. Ils se tiennent tout seuls par terre et ils bougent comme ça, mais sans bouger. Ils bougent les bras, mais ils ne bougent pas. Ou s'ils devaient bouger, c'est un millimètre ici, un millimètre là. Et ensuite, ils arrivent à mettre les bras en avant comme ça et se tirer. Vous voyez ? Dites-moi, est-ce que pendant que l'enfant est en train de se tirer comme ça, il est moins humain qu'un adulte comme vous et moi qui marche normalement ? Non, il est 100% humain, déjà à ce moment-là. Donc vous, vous êtes 100% enfant de Dieu, amen. Et ensuite, il commence à se tirer, et ensuite, ah, il arrive à se mettre à quatre pattes. Mais il n'arrive pas à marcher par contre. Donc il se remet par terre, puis il retire parce qu'il n'arrive pas à bouger. Et d'un coup, il se met à marcher. Et d'un coup, il arrive à se mettre debout. Et ensuite, il fait ses premiers pas, il avance et... Avant qu'on le sache, il disparaît, qu'on va faire une marche avec lui dehors. Ça m'est arrivé avec Ilias, gloire à Dieu. C'est, oh, il est passé celui-là. Ah voilà, il est à la petite place de jeu pendant de la maison, il est au toboggan. Ouais. Vous voyez, comment ça se fait ? Parce qu'il y a une maturité naturelle. Donc ne vous découragez pas si vous avez déjà essayé de marcher et vous n'avez peut-être pas réussi à faire le premier pas. Il vient à ce pas. Soyez déterminés, il y a un but. Amen. Croissez en Jésus-Christ, soyez forts en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous devez rendre compte de ce que vous avez fait. La Bible est claire. Dites, je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous sommes toujours plus que vainqueurs. Levez-vous.